magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est devenu récurrent dans les débats sur l'avenir de la planète, le thème des inégalités. Bien que la pauvreté relative n'ait cessé de reculer depuis 30 ans, grâce en particulier aux progrès économiques de la Chine et de l'Inde, il y a beaucoup plus d'inégalités entre les riches et les moins riches. Cette situation n'est pas simplement injuste sur un plan moral, elle est aussi dangereuse sur le plan politique, parce qu'elle suscite la colère de ceux qui se sentent laissés pour compte. Cette colère aura été un des arguments de campagne de Donald Trump, qui occupe désormais pour 4 ans la Maison Blanche à Washington. Pour ses derniers pas de vice-président américain, Joe Biden était à Davos, où il a évoqué cette question des inégalités.
Je suis un partisan du libre-échange et un grand défenseur de la mondialisation. Mais il faut avouer que l'écart s'est creusé entre ceux qui font la course en tête, ceux qui s'accrochent pour rester au milieu de la pyramide et ceux qui sont restés en arrière. Le bon sens voudrait que l'on partage les profits et les bénéfices d'un projet dans lequel on est engagé. Mais cela a échoué dans mon pays et dans vos pays.
Ces inégalités, les dirigeants économiques du monde s'en préoccupent aussi. À Davos, cette semaine, ils ont placé la question au premier rang de leurs préoccupations. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a reconnu que son organisation s'était convertie, je cite, « par la force des choses à prendre en compte les inégalités » et le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du site internet Alibaba, s'en inquiétait également.
Les entreprises américaines ont fait des milliards et des milliards de profits. Grâce à la mondialisation, IBM, Cisco, Microsoft, l'argent, les profits qu'ils ont amassés, c'est plus que ce que possèdent les quatre plus grandes banques chinoises. Où est passé cet argent? Qu'importe combien votre stratégie est bonne, vous êtes supposé dépenser l'argent pour votre propre population. Ce ne sont pas les autres pays qui ont volé vos emplois, les mecs, c'est votre stratégie. Vous n'avez pas redistribué l'argent.
Alors, comment définit-on l'inégalité sur un strict plan économique? Comment aller au-delà du simple constat « il a plus ou beaucoup plus d'argent que moi » Pourquoi les inégalités se sont-elles développées? Peut-on parler de coupables et qui sont les victimes? Enfin, comment lutter contre ces inégalités et quel est leur impact sur le fonctionnement de l'économie mondiale? Voilà les questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Anna Liena Nosal.
Bonjour Jean-Pierre.
Anna Liena Nosal, vous êtes économiste à l'OCDE au sein de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales. Vous avez contribué ces dernières années à deux gros rapports sur les inégalités. L'un qui s'intitule « Tous concernés, pourquoi moins d'inégalités profitent à tous ?» et l'autre « Toujours plus d'inégalités, pourquoi les écarts de revenus se creusent ?» L'OCDE, c'est une organisation de pays riches. On a peine à croire qu'elle se soucie beaucoup de ces inégalités.
Pourtant, l'étude sur les inégalités date de surtout 10 ans à l'OCDE. L'OCDE a été une des premières organisations internationales à regarder les raisons pour lesquelles les inégalités existent, regarder la redistribution et aussi le marché du travail, comment on peut améliorer le marché du travail pour réduire les inégalités.
Nous parlerons de tout ça dans le courant de l'émission. Avec nous dans ce studio également Lucas Chancel. Bonjour.
Bonjour.
Lucas Chancel, vous êtes économiste, coordinateur du projet We the World sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris. De quoi ce projet traite-t-il?
Ce projet We the World, c'est un projet sur la mesure et le suivi de la dynamique des inégalités au niveau mondial. Donc il s'agit à la fois de mesurer, de récolter un ensemble de données qui viennent de différentes sources, donc données fiscales, données d'enquête, et aussi de les faire voir en fait à l'ensemble des populations intéressées, donc que ce soit chercheurs mais aussi journalistes et grand public. Et donc on vient de produire ce site wid.world qui a été inauguré la semaine dernière et qui permet de voir toutes ces évolutions sur des cartes facilement accessibles avec plusieurs outils interactifs.
Bien sûr, le lien de ce site sera sur la page internet de cette émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Je termine ce tour de table par vous, Xavier Godinot. Bonjour.
Bonjour.
Xavier Godinot, vous êtes aussi économiste, volontaire permanent de l'association ATD Carmonde. Vous coordonnez en ce moment avec l'université d'Oxford une recherche qualifiée de participative sur de nouvelles mesures de pauvreté. Une recherche participative, c'est quoi ?
La recherche participative vient de l'idée que souvent, lorsqu'on parle de la pauvreté, ceux qui ont défini la pauvreté ne sont pas ceux qui la vivent. C'est tout simple, les experts de la Banque mondiale et des autres institutions
de l'OCDE, comme votre voisine,
disent ce qu'est la pauvreté, mais trop souvent, malheureusement, sans interroger les personnes qui la vivent. Et donc la nouveauté dans notre recherche, c'est d'associer dans les équipes nationales de recherche, puisque le projet a lieu dans 7 pays.
Lesquels ?
Alors la France, l'Angleterre, le Bangladesh, la Tanzanie, la Bolivie, les États-Unis et l'Ukraine. Ça fait un petit tour comme ça, un petit tour du monde. Donc on associe dans les équipes de recherche à la fois des universitaires de bon niveau, mais aussi des personnes en situation de pauvreté et des praticiens. C'est ça l'originalité de notre recherche, c'est de les faire participer à la définition même des objectifs de la recherche, de son déroulement et de son évaluation.
Au cours de cette émission, des reportages, nous irons à Shanghai en Chine, nous attend Angélique Forget à Johannesburg pour retrouver Alexandre Arbrojon et à Davos en Suisse avec notre envoyé spécial Mounia Daoudi. L'ONG Oxfam vient de publier un rapport indiquant que les 8 personnes les plus riches de la planète possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Est-ce que cette comparaison est frappante ou est-ce qu'elle est pertinente, Xavier Godinot ? Je sais bien que c'est une boutique qui est probablement concurrente d'ATD Carmonde, mais est-ce que ça vous semble pertinent comme comparaison, comme annonce ?
Oui, tout à fait, ça me semble pertinent comme annonce. C'est important de voir quels sont les extrêmes des inégalités. Donc là, Oxfam se focalise sur l'extrême supérieurs. Nous avons plus l'habitude de nous focaliser sur les extrêmes inférieurs qui souvent échappent aux statistiques, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais simplement pour vous dire, quand on fait par exemple simplement en France des recensements, on s'aperçoit qu'une partie de la population probablement la plus pauvre échappe aux statistiques. Ça, c'est ce que nous affirme l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Et quand on est dans des pays très pauvres, là on a des parties mais alors très considérables de la population qui sont pas du tout prises en compte dans les statistiques.
Mais vous voulez dire que par exemple quand Oxfam dit la moitié de la population mondiale a autant que les 8 personnes les plus riches, on oublie encore une partie de la population qui est en dessous des radars?
C'est très probable, c'est extrêmement probable, c'est même, je dirais, quasiment sûr qu'il y a une partie de la population qui n'est pas comptée dans les statistiques qu'a utilisé Oxfam.
Lucas Chancel, vous partagez ce point de vue ?
Oui, le problème de base donc sur la mesure des inégalités, c'est effectivement de voir ce qui se passe au sommet et au bas de l'échelle sociale. Et c'est vrai que au sommet, jusqu'à présent, on utilisait surtout des données issues d'enquêtes et qui sont bien connues parmi les statisticiens pour en fait sous-représenter les très hauts revenus. Et les très hauts revenus ont aussi tendance à sous-déclarer leurs revenus. Donc on n'arrive pas bien à voir ce qui se passe. Et c'est pareil en bas, on a du mal pour d'autres raisons à suivre la dynamique des revenus en bas de la pyramide sociale.
Ce qui voudrait dire qu'il y a probablement moins de gens en haut de la pyramide et plus en bas encore.
Non, pas forcément. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut combiner différents types de sources pour avoir une analyse qui soit la plus proche possible de la réalité. Et c'est toujours un travail d'amélioration continue. En fait, il faut toujours raffiner, améliorer ces sources-là.
8 personnes les plus riches du monde avec autant d'argent que la moitié la plus pauvre, Anayena Nosal, à l'OCDE, vous recoupez ces données ?
Je voulais juste apporter une précision, c'est que là on parle du patrimoine, de la richesse, et c'est différent quand on regarde le patrimoine qui est beaucoup plus concentré que les revenus. Donc les données que nous regardons sur le patrimoine montrent aussi une grande source d'inégalité, peut-être pas autant que ce que Oxfam dit. Nous, ce qu'on voit à l'OCDE, c'est qu'à peu près le 10% le plus riche en termes de patrimoine possède presque la moitié du patrimoine. Alors que les 40% les plus pauvres en termes de patrimoine ont 3%. Et si on regarde même le 10% plus riche en termes de patrimoine, c'est parfois négatif ou zéro, puisqu'ils ont souvent des dettes ou pas de patrimoine du tout. En termes de revenus, c'est complètement différent. Il y a aussi beaucoup d'inégalités. Mais si 10% les plus riches en termes de patrimoine ont 50% du patrimoine, En termes de revenus, on parle de 10% les plus riches qui ont 25%. Donc c'est déjà il y a une différence.
Il y a une meilleure répartition des revenus que du patrimoine.
Même si le 10% le plus riche a un revenu 10 fois plus élevé que le 10% le plus pauvre.
Alors tout ça n'est pas très nouveau. Je voudrais faire référence à un livre qui s'appelle La Grande Évasion, qui vient d'être traduit en français, publié au PUF, aux Presses universitaires de France, et dont l'auteur est le prix Nobel d'économie 2015, Angus Eaton. Et il écrit qu'entre 1820, donc ça date pas d'hier, et 1992, donc une date déjà assez éloignée, on a assisté à une hausse du niveau de vie sans précédent de la population mondiale, et que cette hausse du niveau de vie s'est accompagnée d'énormes hausses des inégalités, tant entre pays qu'à l'intérieur de chaque pays. Lucas Chancel, pourquoi est-ce qu'il y aurait une plus grande sensibilité aujourd'hui aux inégalités qu'il y en avait il y a 20 ans?
Pour moi, c'est très simple. C'est qu'en fait, on a, au cours des 60 dernières années, deux moments, deux tendances. Une tendance années 60 jusqu'à années 80, qui est une tendance de baisse des inégalités dans la quasi-totalité des pays pour lesquels on a des données historiques. Puis ensuite, à partir des années 80, une hausse considérable des inégalités. Et là, quand je parle des inégalités, je regarde la part du revenu ou du patrimoine accaparée par les 1%, les 0,1% ou les 10% les plus riches. Les tendances, c'est à peu près les mêmes dans presque tous les pays pour lesquels on a des données. Et juste pour donner un petit ordre de grandeur, aux États-Unis, en 1980, les 1% les plus aisés avaient 10% du revenu. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc, il y a une hausse qui est considérable. En France, on passe de 8% à 11%. La hausse est plus faible, mais elle est présente également.
Alors, le pays dont la croissance économique a été évidemment la plus spectaculaire au cours des 30 dernières années, c'est la Chine. Mais les inégalités y sont criantes, à Shanghai notamment. Le contraste est très marquant. 27 millions d'habitants, des gratte-ciels à perte de vue, qui sont occupés par une classe moyenne de plus en plus riche. Mais au pied de ces tours, il y a les oubliés, les laissés pour compte de la croissance chinoise. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Angélique Forget et Charlie Wang à Shanghai.
Devant sa maison faite de rien, Madame Yang étend son linge. Des habits rapiécés qu'elle fait sécher entre deux pylônes électriques. Cette retraitée au sourire édenté est l'une des doyennes du quartier.
Je vis ici depuis 70 ans. Avec ma fille et ma petite fille, on habite dans 20 mètres carrés. On n'a pas de toilette, alors on utilise les toilettes publiques là-bas. Je n'ai pas de lavabo non plus. Alors la vaisselle, eh bien, je la fais dehors. Si je pouvais vivre ailleurs, vraiment je le ferais, mais je n'ai pas l'argent suffisant.
Ici, les maisons entassées les unes sur les autres semblent prêtes à s'effondrer comme un château de cartes. Les 7000 habitants du quartier de Zhongqiao, Tilan, au nord de Shanghai, sont passés à côté du miracle économique chinois. Comme Ming Ding, une travailleuse pauvre de 21 ans.
Mes parents tiennent ce magasin depuis que je suis née. On vend de l'alcool et des cigarettes, essentiellement à des gens du quartier. On ne gagne presque rien, à peine de quoi vivre en fait.
Il y a 10 ans, des tours immenses sont venues faire de l'ombre au quartier. Elles abritent la nouvelle classe moyenne chinoise. Zhao Xuefen, une chic shanghaïenne de 45 ans, vit dans l'un de ces gratte-ciels. Une résidence tout confort où des gardiens veillent sur des habitants de plus en plus riches.
Je vis dans 90 mètres carrés. Mon appartement compte 2 chambres, 2 salons et 2 salles de bain. Je vis là-haut, au 27e étage. Depuis ma fenêtre, je vois le quartier de petites maisons en bas et ça me fait de la peine. La différence entre eux et nous est tellement énorme. Nous, ici, on a tout ce qu'il faut. Il y a même une salle de gym.
Dans 2 mois, Madame Zhao aura de nouveaux voisins. Le quartier d'en bas va être entièrement rasé pour laisser place à de nouveaux immeubles. Tous les habitants devront déménager, comme Wang Rongling et son mari.
Bienvenue chez moi, c'est ici que nous habitons.
Il loue une pièce nue éclairée par un néon fatigué.
Pour le déménagement, on n'aura que nos vêtements à prendre. Les chaises, on les a trouvées dans la rue, alors qu'est-ce qu'on ferait de ces pauvres affaires? Le réfrigérateur, on ne le prendra pas. Il ne marche pas. On emportera juste la télé.
Madame Wang est femme de ménage. Avec ses maigres revenus, 300 euros par mois, Shanghai est devenue une ville bien trop chère pour elle.
Si on ne trouve pas de logement, on sera obligé de retourner dans l'Anhui, la région dont nous sommes originaires. Mais là-bas, il n'y a pas d'usine pour travailler.
Ceux qui sont propriétaires de leur logement auront, eux, un peu plus de chance. Ils seront relogés, mais en périphérie de Shanghai, comme pour repousser un peu plus les dernières poches de pauvreté de la ville la plus riche de Chine.
Un reportage signé à Shanghai, Angélique Forget et Charlie Wang. Anna Yenanota, je vous voyais écouter ça très attentivement, réagir, parfois avec des sourires. Ça prête pas tellement à sourire, en fait.
Non, mais c'est vrai qu'ayant voyagé en Chine, je reconnais bien certaines choses, notamment cette grande croissance que l'on voit en Chine, qui se traduit par le développement de nouveaux quartiers. Et quand ils parlent de raser les maisons, je reconnais cela. Mais c'est vrai que c'est un pays où les inégalités se sont énormément accrues depuis les deux dernières décennies. Mais le gouvernement essaye aussi de mettre un frein à cette croissance des inégalités, notamment par le développement d'un système de prestations sociales dans les dernières années.
Lucas Chancel, votre base de données, elle donne des informations sur ces inégalités chinoises?
Tout à fait. Donc, non seulement elle donne des informations, mais des informations qui sont révisées par rapport aux données qu'on avait avant sur la Chine, donc qui étaient des données d'enquête que je mentionnais juste avant, qui nous disaient que en Chine, donc les 1% les plus riches, ça accaparait à peu près 6-7% du revenu total. Et avec ces nouvelles données, en fait, on voit que c'est pas 6%, c'est deux fois ça, c'est 13%. Et qu'en fait, c'est 13% aujourd'hui, mais qui vient de 6% il y a 25 ans. Donc il y a cette hausse aussi considérable des inégalités en Chine. Et ce qu'on peut voir aussi sur cette base de données WeWorld, c'est que elle se fait dans un contexte de transfert massif du capital public au capital privé. Donc la privatisation chinoise, c'est une réalité extrêmement importante. Dans les années 70, 70% du patrimoine total était public. Aujourd'hui, on est à 30%. Donc la privatisation a été extrêmement inégalitaire, avec un accès à ces nouveaux actifs accaparés par les ménages au sommet de la pyramide sociale.
Vous avez Godino, ce sont des thèmes qui vous sont familiers à TD Quart Monde.
Écoutez, quand j'entendais ce reportage de Shanghai, moi je pensais aux situations analogues en France. Donc il faut se rappeler qu'en France, nous avons 3,7 millions de mal logés, d'après la Fondation Abbé Pierre, d'après l'INSEE, 150 000 personnes sans abri. Et permettez-moi de donner un peu de détails là-dessus, puisque j'ai été confronté personnellement, en me promenant en famille au bord de l'Oise, à avoir une petite tente qui était habitée. Donc je suis allé voir qui était là et j'ai découvert un Français de 35 ans qui habite là depuis 6 mois. Avec un pompier à la retraite, on a essayé de faire toutes les démarches pour le reloger. C'est un vrai parcours du combattant. Donc vous savez qu'on est période des grands froids, il faut appeler le 115. Quand vous appelez le 115, vous pouvez attendre 40 minutes avant d'avoir une réponse. Parfois c'est 3 minutes, ça dépend des jours.
Le 115, c'est le numéro d'urgence. Le
numéro d'urgence pour l'hébergement d'urgence. Voilà. Et alors j'ai découvert en faisant toutes ces démarches que dans le simple département du Val d'Oise, il y a 324 demandes par jour aux 115 qui ne sont pas satisfaites. 324 personnes chaque jour qui téléphonent en demandant un logement d'urgence parce qu'elles sont dans des cages d'escalier, dans le métro, et que ces demandes ne sont pas satisfaites. Donc c'est vraiment une situation quand même très...
Et c'est une situation que vous avez vue s'aggraver au fil des années ?
C'est une situation qui dure depuis très très longtemps, puisque rappelez-vous, l'appel de l'abbé Pierre est vers 54.
À l'hiver 54, mais est-ce que ces inégalités, c'est le nombre de ces laissés pour compte, a augmenté dans l'économie française ?
Alors, je pense que récemment, il a augmenté avec l'afflux des réfugiés. Ça, c'est certain, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent de Roumanie ou qui viennent des pays en guerre. Là, on assiste à un afflux massif de réfugiés. Pour prendre encore ce petit baromètre du Val d'Oise, le nombre de demandes qui n'ont pas de réponse est de 200 personnes de plus par jour que l'année dernière. Donc là, il y a eu un accroissement très considérable, je pense, qui est dû à l'afflux des réfugiés.
Lucas Chancel, brièvement.
Brièvement, donc nous, ce qu'on voit sur la France dans WeWorld, c'est qu'il y a une hausse des inégalités au sommet de l'échelle. Cela dit, c'est un pays qui, relativement parlant, résiste assez bien à cette montée des inégalités, avec les 50% du bas de la population dont les revenus croissent exactement comme la moyenne. C'est-à-dire 40% de hausse depuis 1978. Depuis à peu près 40 ans, il y a une hausse de 40% comme la moyenne des revenus. Donc il y a une résistance en fait de la France à cette hausse extrême des inégalités.
Alors nous poursuivons cette conversation dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. Idée, vous allez suivre, est une rediffusion.
Mmh.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré au monde d'inégalités dans lequel nous vivons. Trois invités autour de ce micro. Anna Liena-Nossal, économiste à l'OCDE, qui a contribué à plusieurs ouvrages sur les inégalités. Lucas Chancel, économiste, coordinateur du projet WID World sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Et Xavier Godineau, économiste volontaire permanent à l'association ATD Quart-Monde, qui coordonne avec l'Université d'Oxford une recherche participative sur de nouvelles mesures de pauvreté. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu quelle était la dimension réelle de ces inégalités mondiales, mais il reste à explorer ce que sont ces inégalités. On parle beaucoup d'inégalités de revenus. Lucas Chancel, vous nous avez donné beaucoup de chiffres, 1%, 20%, 40%, etc. Mais ces inégalités, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres moyens de les mesurer que le revenu? Est-ce que la santé ou l'éducation, Anna Liena-Nossal, ne sont pas aussi des mesures d'accès ou pas aux possibilités de vivre bien et donc aux inégalités?
Oui, tout à fait. Donc, nous utilisons à l'OCDE la mesure de Gini pour mesurer les inégalités.
Gini, ça s'écrit G-I-N-I.
Voilà. Et donc,
ça veut dire quoi, hein?
Le Gini va de 0 à 100. Et 0, ça serait un cas où tous les revenus d'un pays seraient distribués de manière très équitable. Et 100, ça serait le cas où une personne aurait tous les revenus possibles dans le pays. Donc la manière dont on le voit pour le présenter, c'est un peu comme la météo. C'est-à-dire que s'il fait 20 degrés, c'est très bien, vous êtes confortable. S'il fait 25 degrés, 30, vous commencez à avoir un peu chaud. S'il fait 35 degrés, là, il fait très chaud. Si vous avez 50, là, c'est vraiment, vraiment très chaud. Donc le Gini, c'est pareil. Si vous avez des pays comme les pays émergents où il fait 50, il y a une très forte inégalité. Si vous avez des pays comme les pays nordiques où il fait 25, les inégalités sont, elles sont là, mais elles sont de manière à ne pas entraver la croissance, le bien-être. Donc, c'est des inégalités qui sont basées sur les différentes capacités des personnes. Mais c'est vrai que quand on regarde, on se centre aussi sur la pauvreté. Les pays, en plus de regarder les revenus, regardent d'autres mesures. Donc, notamment, vous avez parlé de la santé, mais aussi, on parle souvent de l'accès à l'emploi. Donc, le chômage contribue énormément à la pauvreté. Également, avoir un logement décent, ce sont aussi des mesures d'inégalité et de pauvreté dans la société. Et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, dans les pays de l'OCDE, souvent les inégalités se voit beaucoup moins puisque tout le monde a accès donc à avoir un bac, mais déjà quand on regarde au niveau tertiaire, au niveau de l'université, on commence déjà à avoir aussi des inégalités par revenu. Donc c'est aussi important de regarder ça et la qualité de l'éducation par le revenu des parents ou le revenu familial.
Xavier Godineau, dans l'étude que vous menez avec l'Université d'Oxford, vous vous attachez seulement au revenu ou vous regardez aussi le logement, l'accès à l'éducation, à la santé?
Ben, la pauvreté est multidimensionnelle comme les inégalités. Hein. Donc évidemment, l'intérêt, c'est de prendre en compte en particulier les dimensions qui sont mal vues aujourd'hui, qui demeurent invisibles. Donc plusieurs ont été cités, la santé. Là, je voudrais juste donner un chiffre concernant la santé en France. L'espérance de vie moyenne pour les Français est de 73 ans. Pour les personnes sans-abri, elle est de 49 ans. Pardon, 83 ans et 49 ans. Donc, vous voyez une différence absolument colossale d'espérance de vie. Enfin, c'est frappant, hein, dans notre pays qui est la cinquième ou sixième puissance mondiale. Alors, on essaye, nous aussi, de considérer des inégalités dans des aspects beaucoup plus qualitatifs. Par exemple, la honte. Le professeur Walker, avec qui je travaille, d'Oxford, a fait des études internationales qui montrent que la pauvreté dans tous les pays est liée à la honte.
Ou la honte à la pauvreté.
Ou la honte à la pauvreté. Et donc, c'est un aspect qui n'est jamais pris en compte, ça.
C'est-à-dire,
quand on est dans la pauvreté, souvent on a honte de sa situation. Pour un tas de raisons, et aussi parfois parce que les politiques font honte. Dans certains pays d'Europe, c'est effrayant comme on culpabilise les pauvres de leur situation, en fait. Ça, c'est un aspect très important, la honte, le respect qu'on porte aux personnes. Et alors là, on tombe sur des notions plus connues, comme la discrimination. Les populations pauvres sont discriminées. Vous savez peut-être que la TD Quart-Monde essaye de faire reconnaître en France la pauvrophobie, c'est-à-dire la discrimination parce qu'on est pauvre, pas à cause de la race, etc., mais parce qu'on est pauvre, qui est une discrimination réelle qu'on peut démontrer.
D'ailleurs, le D de votre sigle, ATD, c'est dignité.
Absolument. Absolument. Donc il y a tout ce qui entrave la dignité, qui doit être mesuré de multiples façons. Et nous disons aussi que la pauvreté est une violence parce que, en fait, la capacité des gens d'agir sur leur propre vie est considérablement diminuée. Et parfois, elle devient presque nulle. Et ça, c'est une très très grande violence qui est imposée aux personnes. Et ça aussi, il faut essayer de trouver des manières de prendre ça en compte.
Lucas Chancel, dans le monde qui nous entoure, l'espérance de vie à laquelle faisait allusion Xavier Godinot a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies, au cours du 20e siècle. Est-ce que ces gains d'espérance de vie sont également partagés ou est-ce que là aussi il y a beaucoup d'inégalités ?
Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en France stagne depuis plusieurs années déjà. Donc il n'y a plus cette hausse pour tout le monde de l'espérance de vie en bonne santé. Et évidemment, il y a des inégalités d'accès au système de santé de qualité aux États-Unis de manière criante, en France également. Et évidemment, ces inégalités-là sont liées aux inégalités de revenus dont on parle en première partie de l'émission. Donc il y a bien un cercle vicieux entre ces différentes formes d'inégalités, que ce soit de santé, d'éducation, mais aussi une dimension qui me paraît tout à fait essentielle, sont les inégalités environnementales, d'exposition face aux risques environnementaux, que ce soit sécheresse, ouragan, etc., mais aussi les inégalités socio-environnementales de santé, donc c'est exposition aux produits chimiques, aux pollutions, etc., où on retrouve ce cercle vicieux entre inégalité de revenus et inégalité environnementale ou éducative, etc. Et juste un dernier mot sur la honte, le lien entre inégalité et honte ou pauvreté et honte va bien dans les deux sens. Il y a plusieurs études qui montrent que les personnes en situation de ce que les économistes sociologue appelle stress de position, donc en situation de honte, vont avoir des capacités cognitives qui sont réduites du fait de ce stress de positionnement.
C'est-à-dire qu'il est plus difficile d'apprendre, de faire des études, de se développer intellectuellement quand on est pauvre et qu'on a honte de sa situation.
C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes biologiques qui sécrètent des hormones à l'intérieur du corps qui font qu'on va avoir plus de difficultés pour résoudre des problèmes extrêmement pratiques, des problèmes logiques. On voit ça en Inde, on voit ça aux États-Unis. Et en plus de ça, en plus de ces mécanismes biologiques, il y a bien sûr des constructions sociales qui vont en plus compliquer la tâche.
Xavier Godinot.
Oui, je suis très content que Lucas Chancel ait dit ça, parce que c'est absolument certain. Et les enfants de milieux pauvres qui vont à l'école et qui nous disent qu'ils sont mis dans la honte, évidemment, leur capacité d'apprentissage qui sont entravées par ce fait-là, ça c'est certain. C'est certain.
Anna Yenanosal, est-ce que la mondialisation, dont l'OCDE est un des acteurs importants, par les études auxquelles vous procédez, par les politiques que vous préconisez, est-ce que la mondialisation est responsable de cette hausse des inégalités?
Alors, les études montrent surtout que c'est le changement technologique, le progrès technique qui favorise surtout les personnes donc plus qualifiées, qui est surtout responsable de cette hausse des inégalités. Alors, il est très difficile parfois de savoir si c'est la mondialisation qui permet ce progrès technique ou qui a permis une plus forte croissance du progrès technique dans certains pays. En tout cas, quand on regarde les indicateurs, donc d'avoir plus d'importations, plus d'exportations, on ne voit pas d'impact direct sur les inégalités, mais normalement la mondialisation a pu avoir aussi un impact sur le changement des institutions et les réformes politiques, normalement dans le marché du travail. On voit cet impact normalement dans les réformes du marché du travail, cette dualisation du marché du travail qui a aussi un fort impact sur la hausse des inégalités. On voit cet impact direct, mais la mondialisation a pu contribuer à ces réformes dans les pays.
C'est votre avis aussi, Lucas Chancel ?
Je pense qu'il ne faut pas oublier le facteur politique à l'intérieur des pays pour expliquer cette hausse des inégalités. Un exemple extrêmement simple, aux États-Unis, le salaire minimum est 30% plus faible aujourd'hui que dans les années 70. Il a été ramené par Obama, il a été un petit peu augmenté par Barack Obama de $6 à $8, mais uniquement pour le ramener à son niveau des années 60. Donc ça, c'est un facteur de politique intérieure, enfin ce que certains appellent institution, mais qui est extrêmement important pour expliquer ces tendances. On voit que là où l'état social, pour résumer assez rapidement, là où l'état social a diminué, les inégalités ont augmenté plus fortement qu'ailleurs. Donc ça, je pense, c'est assez important. Entre économistes, en fait, il y a un débat entre les facteurs d'origine technologique, les facteurs d'origine...
C'est-à-dire l'informatisation, la robotisation
de la société, l'ouverture... donc au commerce, à la mondialisation financière et commerciale, et les facteurs politiques. En mon sens, cette distinction en trois catégories peut être un peu trompeuse, parce qu'en fait, il y a des choix politiques à l'intérieur de chacun de ces facteurs. Et il faut bien avoir ça en tête.
Alors, cette mondialisation, il en était question, comme tous les ans, à cette époque de l'année, à Davos, en Suisse. La question des inégalités était au premier rang des sujets à traiter. Et pour en parler, pour avoir un compte-rendu de ce qui s'est dit sur place, nous rejoignons Mounia Daoudi, l'envoyée spéciale de RFI. Bonjour Mounia.
Bonjour Jean-Pierre.
Parler inégalité dans ce qu'on a l'habitude de qualifier de grand-messe de la finance et des affaires à Davos où vous êtes, ça peut surprendre.
En fait, ce constat sur l'accroissement des inégalités de richesse et de revenus n'est pas nouveau à Davos. Cela fait déjà quelques années que des ONG comme Oxfam, vous en avez parlé en début d'émission, alertent sur cette question. Et les experts du Forum économique mondial également. Dans leur dernier rapport sur les risques globaux, ils estiment en effet que cet accroissement des inégalités a conduit à une polarisation des sociétés et qu'il représente désormais le risque global majeur pour la planète dans les 10 prochaines années. Et pour le Forum, si rien n'est entrepris de façon concertée et urgente, le chômage, le sous-emploi structurel, l'instabilité et l'exclusion sociale vont s'accroître. C'est dire à quel point ce sujet des inégalités est ici pris très très au sérieux.
Alors plus précisément, Mounia Daoudi, qu'est-ce que les grands patrons ont à dire sur les inégalités ?
Alors d'abord, ils reconnaissent aujourd'hui ouvertement que la mondialisation n'a pas contribué à réduire l'écart entre riches et pauvres. Ensuite, ils considèrent que cet accroissement des inégalités est aujourd'hui une menace de plus en plus sérieuse pour leur business. Chaque année, ici à Davos, le cabinet PricewaterhouseCoopers publie, juste avant le début du forum, une vaste étude menée auprès de quelques 1400 patrons de multinationales présentes dans 80 pays. Et cette étude, c'est un peu une bible qui donne un aperçu de comment les patrons on voit évoluer à l'échelle mondiale le climat des affaires dans les mois à venir. Eh bien, depuis 3 ans maintenant, parmi leurs 3 principales préoccupations, il y a l'instabilité sociale qui est en hausse constante. Une instabilité sociale qui, dans leur esprit, est clairement associée à l'accroissement des inégalités.
Surtout que cet accroissement des inégalités, Mounia Daoudi, n'épargne plus les pays développés.
Oui, les experts du Forum économique mondial ont en effet publié cette semaine même une étude dans laquelle il apparaît que le revenu annuel médian dans 26 pays riches a reculé ces 5 dernières années de 2,4%, soit environ de $284 de moins par habitant. À l'inverse, ce revenu médian a progressé en moyenne de près de 11% dans les pays en développement, soit quelques $165 de plus par habitant. Une illustration, s'il en était encore besoin, du fait qu'une partie croissante des populations occidentales est plutôt perdante au jeu de la mondialisation. Et c'est ce qui explique sans doute la montée des populismes, le vote en faveur du Brexit et bien sûr l'élection de Donald Trump qui a surfé justement sur cette défiance de plus en plus affichée contre la mondialisation.
Élection de Donald Trump dont nous parlions tout à l'heure. Merci Mounia Daoudi. Écho d'ici, écho d'ailleurs, nous parlons de ce monde d'inégalité qui est le nôtre avec 3 invités, Lucas Chancel de l'École d'économie de Paris, Anna Yenanosal de l'OCDE et Xavier Godino de l'association ATD Carmonde. Comment tous les 3 est-ce que vous interprétez cette préoccupation de gens qui sont les gagnants de la mondialisation, en quelque sorte les gens dont nous parlait Mounia Daoudi à l'instant et qui sont à Davos, Xavier Godino?
Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle qui s'en inquiète. Moi, en écoutant ça, je pensais à une situation qui est pas très connue, qui est la situation de Madagascar. Madagascar, c'est un pays de 24 millions d'habitants, des gens qui veulent apprendre. J'ai eu la chance d'habiter là-bas pendant plusieurs années, donc on a vu des gens très très désireux d'apprendre, d'avancer. Mais d'après la Banque mondiale, dans ce pays, il y a 90% de pauvres et 80% d'extrêmement pauvres. Autrement dit, vous avez une population qui massivement est dans la pauvreté, très peu de classe moyenne et une classe dirigeante qui a la réputation d'être très corrompue. Et le lien entre l'inégalité sociale et l'instabilité est très fort dans ce pays, puisque tous les changements politiques, en fait, ont eu lieu avec des sortes de coups d'État, des manifestations dans les rues, etc. Et le plus frappant de tout, c'est que la population s'appauvrit depuis 60 ans. Ça veut dire que vous avez d'un côté une faible croissance économique, une très forte croissance démographique, l'accaparement des richesses par une petite minorité, ce qui fait que la population s'appauvrit en termes de revenus par habitant et par an. Et donc ça, c'est quand même assez stupéfiant, mais c'est clairement lié à des conditions politiques particulières et on ne peut pas mettre ça en lien directement avec la mondialisation.
Vous corroborez ce que disait Lucas Chancel il y a quelques minutes, à savoir que cette hausse des inégalités, elle pouvait aussi s'expliquer par des politiques nationales, pas absolument. Seulement par la mondialisation oui, ou par la mécanisation. Anna Yenanosal, Davos, c'est un peu la version business de ce qu'écrit et de ce à quoi réfléchit l'OCDE d'une manière un peu plus intellectuelle, mettons.
Davos montre un peu, parle surtout des grandes tendances entre les leaders nationaux et mais également les entreprises, des grandes tendances dans le monde. Et c'est vrai que dernièrement, on s'inquiète beaucoup sur cette montée des inégalités parce que la montée des inégalités a été souvent perçue comme un problème surtout éthique et social, mais de plus en plus les leaders nationaux, mais aussi les entreprises perçoit aussi ce lien entre la croissance des inégalités et la croissance.
C'est-à-dire que les inégalités nuisent à la croissance, nuisent à la santé économique des entreprises, Lucas Chancel ?
Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus d'études à l'OCDE ou au FMI, dans plusieurs institutions de recherche, qui montrent le lien négatif entre inégalité et productivité au niveau de l'entreprise, où on voit que les individus qui sont confrontés à une inégalité de revenus, en fait, une productivité qui est en baisse. Donc on va effectivement au-delà de l'argument éthique pour passer à l'argument efficacité du système économique. Et par ailleurs, c'est l'argument souvent utilisé par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, une situation d'inégalité extrêmement forte, c'est une économie qui ne va pas investir dans les bons secteurs, qui ne va pas investir dans le développement de ce que les économistes appellent, et c'est sans doute un mauvais mot pour qualifier cela, le capital humain. Donc on ne va pas investir assez dans l'éducation, dans les infrastructures de transport qui permettent la croissance de long terme. Et ce qu'on discute à Davos, c'est effectivement cela aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un consensus un peu historique qui est en train de se faire sur le besoin de réduire ces inégalités.
Xavier Godineau, vous parliez il y a quelques minutes de Madagascar. La question des inégalités est bien sûr cruciale pour l'Afrique. De tous les pays africains, c'est en Afrique du Sud que le revenu par habitant est le plus élevé. Mais la politique des héritiers de Nelson Mandela n'a pas réussi à résorber les énormes inégalités sociales et économiques nées de l'apartheid. Entre les luxueuses villas des banlieues blanches de Johannesburg et les bidonvilles de la périphérie, un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Alexandra Branjon à Johannesburg.
Sandton, le quartier des affaires de Johannesburg. Les banques, les grosses entreprises, la bourse, c'est le kilomètre carré le plus riche de toute l'Afrique du Sud. À 5 km de là, le township d'Alexandra. Ici, environ 400 000 personnes vivent sur 7 km carrés, un des quartiers les plus pauvres de la ville. C'est ici que vit Martin, 21 ans, avec ses parents, son frère, sa sœur, dans une cabane en tôle de 15 mètres carrés, sans eau courante ni sanitaire.
My father works. My mother is a street vendor.
Mon père travaille et ma mère vend dans la rue. J'ai toujours eu à manger, on a toujours pu acheter le minimum. Rien de superflu comme aller chez McDonald's, qui est un luxe dans le township. Ça non, mais on a toujours pu acheter du pain pour manger. Autour de moi, je vois un peu de changement. Les conditions de vie de certains se sont améliorées, mais pas encore pour nous.
Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste une société très inégalitaire, avec des disparités de salaire et de niveau de vie énormes, notamment entre blancs et noirs. Pour Gwen Gwenya, de l'Institut sud-africain des relations entre les races, le gouvernement a tout de même réussi à réduire la pauvreté.
Il y a de plus en plus de gens qui ont accès à un logement, à l'électricité, à l'eau courante.
C'était une des promesses de l'ANC quand ils sont arrivés au pouvoir lors des premières élections démocratiques dans le pays. Et l'État a mis en place d'énormes projets immobiliers. Près d'un million de maisons pour les plus pauvres ont été construites chaque année depuis 1994. Mais là où nous devons faire des progrès, c'est s'assurer que l'écart de revenus entre riches et pauvres se réduise. Et un des moteurs pour cela, c'est l'éducation. Nous n'avons pas réussi à former les gens afin qu'ils puissent trouver un travail et se sortir de la pauvreté.
La moitié des enfants scolarisés ne terminent pas leur éducation secondaire et viennent grossir le rang des chômeurs sans aucune qualification. Officiellement, le taux de chômage est de 26%, mais selon les économistes, il se situe plutôt autour des 37%. Pour l'économiste Ian Cruickshanks, la création d'emplois est l'échec le plus important des gouvernements successifs.
Vous ne pouvez pas créer d'emplois quand l'économie ne tourne pas. Or, pour cette année, nous prévoyons une croissance proche de zéro, alors que l'économie sud-africaine a la capacité de croître de 6%. Nous avons besoin de ça, ne serait-ce que pour faire baisser le chômage. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec des aides de l'État. Si l'économie ne croît pas, il y aura de plus en plus de gens au chômage, dépendants de l'État, et ça ne pourra pas marcher.
Retour dans le township d'Alexandra, Martin est le seul membre de sa famille à avoir terminé le lycée et grâce à une aide de l'État a pu poursuivre ses études supérieures. Aujourd'hui, il a un diplôme d'informatique en main, cherche du travail, espère pouvoir aider un jour ses parents à vivre dans une maison.
Un reportage signé Alexandra Branjon à Johannesburg. Lucas Chancel, c'est l'intervention de l'État qui est clé pour réduire les inégalités ?
Je pense que l'intervention de l'État est effectivement clé, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à la fois sur les processus de mondialisation ou les différentes formes que peut prendre la mondialisation commerciale et financière, il y a des choix politiques qui sont faits derrière, tout comme aussi finalement sur le progrès technique, l'État ou la puissance publique peut aiguiller, diriger certaines formes de progrès techniques. C'est pas forcément pour empêcher certaines formes, mais peut-être pour pousser davantage des formes de progrès techniques qui seraient plus favorables à l'égalité des revenus. Et juste une chose sur l'Afrique du Sud, dont on vient d'écouter un extrait là. Ce qui est terrible en Afrique du Sud, c'est qu'en fait, le niveau d'inégalité en Afrique du Sud dans les années 80 est à peu près un tout petit peu plus élevé que celui de la France à l'époque. Il est passé de la part du 1% des revenus est passé de 10% à 20%. C'est la même hausse qu'aux États-Unis.
C'est-à-dire le 1% de la population, au lieu de contrôler 10% des richesses, contrôle 20%.
20% aujourd'hui, tout à fait. Donc ce que Mandela a pu faire, et puis ses successeurs, finalement, n'a pas du tout permis une évolution dans le bon sens. Finalement, c'est un peu comme Barack Obama aux États-Unis. Malgré des discours proactifs sur cette question-là, on voit que la tendance s'est prolongée et s'est massivement amplifiée.
C'est désespérant, Xavier Godinot ?
Ça pourrait être désespérant, mais j'aime beaucoup cette réflexion de Jean Monnet qui disait « Je ne suis ni
donc
optimiste... »
Donc l'un des pères fondateurs de l'Union européenne.
Voilà, père fondateur de l'Union européenne qui disait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé. » Et moi, je suis tout à fait dans cette façon de voir les choses. Pour nous, ce qui est important dans cette nouvelle sensibilité à la lutte contre les inégalités, c'est d'aller jusqu'au bout. Et donc de réfléchir à l'articulation entre lutte contre les inégalités et lutte contre la pauvreté. On peut lutter contre les inégalités sans lutter contre la pauvreté. Il suffit de faire baisser la part possédée par les 1% les plus riches, de répartir ça aux classes moyennes, vous changez rien du tout à la pauvreté. On peut lutter contre la pauvreté sans lutter contre les inégalités si on considère la pauvreté, si vous voulez, comme une poche de population relativement stable, qu'on va essayer de faire sortir de la pauvreté sans s'attaquer aux mécanismes qui font que certaines personnes tombent dans la pauvreté, donc aux mécanismes de paupérisation qui, eux, sont liés aux inégalités. Moi, je pense qu'il faut, comme l'ont fait les Nations Unies pour la déclaration des objectifs de développement durable, le premier objectif, c'est d'éradiquer la misère dans le monde, et le 10e objectif, c'est de lutter contre les inégalités. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour mettre en œuvre le respect de la dignité de tous les êtres humains et les droits de l'homme. Et donc, je pense qu'il faut jamais oublier que l'objectif de la lutte contre les inégalités, ça doit être ça. Ça doit être de faire respecter les droits de l'homme, de permettre l'accès de tous aux droits fondamentaux et de faire respecter la dignité de chacun. Parce que si ça devient une lutte de jalousie, toi t'as 10% de plus ou 20% de plus que moi, franchement, c'est pas très intéressant.
Anayana Nozal, comment est-ce qu'on peut réduire ces inégalités? C'est avec des grandes déclarations telles que les objectifs du millénaire pour le développement durable des Nations Unies, ou est-ce que ce sont des micro-actions locales?
Alors, les gouvernements ont vraiment beaucoup d'outils encore pour réduire ces inégalités, notamment par la redistribution, par les systèmes des prestations sociales, les allocations. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, dans les pays de l'OCDE, les inégalités de revenus marchands, donc avant imposition et prestations sociales, ont beaucoup plus augmenté que quand on regarde le revenu net. Mais la redistribution a baissé depuis les années 90. Donc les gouvernements ont le moyen d'agir sur ça, notamment sur l'éligibilité d'accès à des prestations sociales et aussi avoir des prestations sociales plus importantes, surtout qu'elles suivent les salaires, parce que les salaires ont augmenté beaucoup plus que le niveau de prestations sociales.
Lucas Chancel, pour conclure cette émission.
Je pense que là, il faut aussi bien avoir en tête les différentes histoires nationales, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les inégalités avant opération du système de la puissance publique sont déjà tellement fortes qu'on ne peut pas uniquement recourir à la fiscalité pour réduire les inégalités. Il le faut, mais il faut aussi régler les inégalités premières issues du système économique, donc salaire minimum, les normes sociales notamment. Et ce qu'on voit là, ce nouveau consensus sur le besoin de réduire les inégalités, bah on voit que les normes sociales sont aussi en train de changer, d'évoluer, et ça c'est extrêmement positif pour ce débat et cette discussion-là.
Alors cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Anna Yena Nostal, Xavier Godino, Lucas Chancel, d'y avoir participé. L'émission était réalisée, mise en onde par Fabien Mugneret. Vous pourrez retrouver sur RFI tous les liens internet qui vous mèneront aux banques de données et rapports sur les inégalités qui ont été évoqués par nos invités. Avant de vous dire à la semaine prochaine, un salut amical à nos jeunes et fidèles auditeurs de Dakar, Mamadou Diouf, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, qui nous écoute toutes les semaines. À bientôt, au revoir.
D'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.